bienvenue à notre émission Histoire d'en savoir plus. Au micro, Marie-Josée Rocheron. Je reçois aujourd'hui Jackie Duperche, venue nous parler de sa mission de déléguée du Défenseur des droits. Bonjour Jackie. Nous pourrions commencer de la façon suivante. Quelle est la fonction du Défenseur des droits ?
Bonjour madame, bonjour aux auditeurs. Je suis d'abord très, très heureux de venir devant Radio Grand Ciel pour évoquer une institution qui m'est chère et qui peut, vous allez le voir, apporter gratuitement des services importants à nos concitoyens. Alors le Défenseur des droits, c'est la succession d'autorités indépendantes qui existaient avant mais qui avaient des fonctions spécialisées. Il s'agissait du médiateur de la République, oui, dont tout le monde a entendu parler, qui était chargé de régler les litiges entre un usager et un service public. Il y avait également l'ALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Il y avait la Défenseur des enfants et enfin la Commission de déontologie de la sécurité chargée de régler en fait les litiges qui pouvaient se produire entre les forces de police, de gendarmerie, les services de sécurité privée et un usager. Et le législateur, le constituant d'ailleurs, puisque c'est une réforme constitutionnelle, a décidé de réunir les attributions de ces quatre institutions sous une même autorité, le Défenseur des droits. Alors le Défenseur des droits, c'est au niveau national, c'est Jacques Toubon, hein, bien connu, ancien ministre.
Oui.
Voilà. Et donc, Jacques Toubon est entouré d'abord d'adjoints directs pour chacune des attributions que je viens de mentionner, c'est-à-dire pour les litiges avec l'administration, les droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations, la déontologie de la sécurité. Et il est accompagné au siège, place Fontenoy à Paris, de 250 collaborateurs qui sont des juristes de haut niveau, des experts spécialisés dans un domaine. Et en même temps, Jacques Toubon a souhaité disposer, c'était déjà le cas, mais a développé un réseau de délégués territoriaux sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer. Et actuellement, nous sommes plus de 500 délégués à intervenir sur le territoire national.
Alors, quelle est la fonction du délégué du Défenseur des droits, justement ?
Alors, le délégué du Défenseur des droits, d'abord, et c'est important de signaler parce que c'est unique dans le monde, parmi les institutions comparables, c'est-à-dire celles qui sont chargées de promouvoir et de défendre les droits et libertés, c'est le seul pays, la France, où les délégués ont un statut de bénévole. Dans la mesure où nous avons un statut de bénévole, cette déconcentration au plus près des citoyens coûte moins cher à l'État,
oui,
ce qui permet
sûr
d'être vraiment très proche de l'État. Je vous disais, nous sommes plus de 500 délégués à l'heure actuelle, dans les campagnes, dans les quartiers sensibles, à la proximité des usagers, et nous pouvons donc apporter des réponses à leurs sollicitations. Alors, de quelle manière nous pouvons être saisis ? Nous pouvons être saisis par téléphone, bien sûr. Nous pouvons recevoir un courriel, un mail de la part de l'usager, et bien sûr, nous privilégions le rendez-vous, c'est-à-dire que nous recevons la personne pour évoquer sa demande d'une manière très, très personnalisée et confidentielle.
Alors, dans quel cas est-ce que vous pouvez, dans quel cas contacter le Défenseur des droits ?
Alors,
il y a quand même pas mal de domaines dont
voilà,
vous vous occupez. Par exemple, j'ai entendu parler, vous vous estimez lésé par le fonctionnement d'un service public.
Voilà.
Vous allez voir le Défenseur des droits.
Alors, bon, effectivement, les gens, à tort ou à raison d'ailleurs, pensent parfois être victimes d'erreurs, de dysfonctionnements de la part d'un service public. Alors, il rencontre le délégué. Alors, quels sont les litiges les plus fréquents ?
Oui.
Ce sont les litiges avec les organismes sociaux. Je pense notamment les caisses d'allocation familiale, les caisses primaires d'assurance maladie, pour l'emploi, les caisses de retraite comme la CARSAT, etc. Ça représente en gros 50% de nos démarches. Alors, à partir du moment où nous recevons l'usager, le citoyen, nous examinons avec lui pendant une entrevue, un entretien qui peut durer parfois près d'une heure. Nous examinons son dossier, nous l'écoutons. C'est important d'écouter parce que parfois certains de nos interlocuteurs ne sont pas familiarisés avec les procédures administratives, avec le droit, et a besoin d'être informé, qu'on lui précise des choses. Et oui, nous avons déjà un rôle pédagogique important. Alors à partir du moment où le dossier est bien de notre compétence, parce que les gens, défenseurs des droits, c'est un terme générique, un terme
donc
très large.
Donc on vient vous voir peut-être pour des domaines qui ne vous concernent pas, j'imagine. Oui.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Parfois, des gens viennent nous voir pour des querelles de voisinage. Par exemple, la haie de mon voisin est trop proche de ma clôture, etc. Bon, ça n'est pas dans mes attributions, c'est dans celle d'un conciliateur de justice. Mais là, on oriente. Et c'est important d'ailleurs d'orienter, parce que là aussi, c'est un moyen de permettre aux usagers d'accéder à leurs droits. Alors à partir du moment où le dossier est de notre compétence, la plupart du temps, sauf dans des cas bien particuliers, c'est le délégué qui traite le dossier de A à Z. Oui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas remonter au siège, sauf si, par exemple, c'est une administration centrale, un ministère qui est mis en cause. Là, le délégué n'a pas compétence. En revanche, si c'est un organisme qui a une structure départementale, si c'est, par exemple, une préfecture, si c'est une caisse d'allocation familiale, si c'est une commune, une mairie du département, etc., Nous sommes compétents pour intervenir. Alors nous procédons de la manière suivante. Après avoir écouté l'usager, nous prenons un contact soit sous forme de lettre, soit sous forme de courriel, de mail, avec la personne, enfin, la représentante de ce service public. Et nous lui disons quelle est la situation, quel est le point de vue tel qu'il nous a été exposé par l'usager, avec beaucoup de précautions, parce que quelquefois, il y a parfois des transformations par rapport à la réalité. Et alors, ensuite, nous recevons la réponse de ce service public. Alors là, il y a plusieurs cas possibles. Soit le service public nous dit immédiatement, nos services ont commis une erreur, et nous la réparons, nous allons donner satisfaction à l'usager. Bon, ben là, c'est une situation très satisfaisante. Nous nous empressons de répercuter à l'usager, qui en général est très, très satisfait. Deuxième solution, le service public nous dit, après une étude du dossier, je vous confirme que malheureusement, nous ne pouvons pas revenir sur notre position parce que la position de mes services est conforme au texte en vigueur, etc. Là, nous faisons une analyse critique, nous, puisque nous avons souvent une formation juridique de cette réponse. Et si elle nous paraît justifiée, ce qui est souvent le cas, eh bien, nous faisons œuvre de pédagogie auprès de l'usager en lui disant « nous sommes désolés, mais il y a une juste application du droit et nous ne pouvons pas aller au-delà dans notre tentative de règlement amiable ». Et puis, il y a des cas qui sont limites, c'est-à-dire des cas où le service public confirme son refus et il nous semble que le service public aurait pu faire preuve d'un petit peu plus d'ouverture. Alors, il nous arrive là de faire une démarche un peu informelle, de rappeler le responsable en lui disant « mais vous n'avez pas tenu compte de cet aspect, etc.
Oui, »
Et si vraiment on s'aperçoit qu'il y a vraiment illégalité de la part du service public et qu'il ne veut pas faire un pas vers un peu plus d'humanité, eh bien nous pouvons faire remonter le dossier au défenseur des droits qui, lui, a d'une part des experts dans chaque domaine et qui, par ailleurs, a une autorité morale encore plus importante que peut l'avoir un délégué territorial.
Donc, à ce moment-là, la situation peut arriver à se régler.
Absolument.
Alors, vous estimez, par exemple, qu'il y a non-respect des droits d'un mineur ou une mise en cause de son intérêt. Vous allez voir le défenseur des droits pour ce genre de choses.
Alors, effectivement, si vous voulez, il faut admettre que la plupart de nos sollicitations concernent les relations avec un service public. En gros, ça représente de l'ordre de 95% des réclamations que nous avons.
Ah bon ?
Ah oui, 95%. Oui. Et pour le reste,
c'est-à-dire
les droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations Et puis la déontologie de la sécurité, ça représente les 5% restants, quoi. Alors c'est, ça peut être 2%, 2% et 1% en gros. Voilà. Alors, dans ces cas-là, pour les enfants, fort heureusement, on a eu des dossiers à traiter, des dossiers intéressants. Je vais vous donner quelques exemples.
Oui.
Un jour, une personne qui recevait un enfant de sa famille originaire d'un pays étranger est venu me voir en me disant voilà, pendant sa présence en France, notre enfant a été vu par un professeur de cardiologie et une intervention chirurgicale s'impose dans des délais très rapides. Or, notre visa, le visa de la maman et puis le visa de l'enfant, s'achève dans quelques jours. Et donc, si jamais le visa n'est pas prolongé, elle ne pourra pas être opérée et sa santé risque d'être mise en cause. Et bien immédiatement, j'ai contacté le préfet du département qui a prolongé immédiatement dans la journée le visa, compte tenu de l'aspect humain des choses. Cette jeune enfant a pu être opérée et être sauvée. Bon, je crois que c'est intéressant.
C'est formidable. Voilà,
c'est un beau dossier.
Un beau dossier.
Autre cas plus modeste. Il arrive que des enfants soient un petit peu turbulents, un peu intrépides dans les cantines ou dans les écoles. Je me souviens de parents qui sont venus me voir parce que le maire d'une commune avait prononcé l'exclusion définitive, enfin l'exclusion jusqu'aux vacances, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, de la cantine scolaire d'un jeune enfant turbulent qui avait bousculé, je crois, une femme de service. Et en regardant le dossier, je me suis déjà posé la question, c'était un enfant très jeune, hein, qui avait 5 ou 6 ans. Mmh. Est-ce que la sanction, quand même, est proportionnée au fait?
Ouais.
Puis deuxièmement, est-ce que la procédure a été respectée? Je me suis aperçu qu'à aucun moment, ni l'enfant, ni ses parents n'avaient été entendus et que la sanction avait été prise d'une manière unilatérale.
Mmh.
Et là, j'ai pris contact avec le maire qui a donc respecté la procédure, qui a écouté les parties en présence. Et puis, à la suite de ça, eh bien, d'une part, le droit a été respecté, et d'autre part, la sanction a été atténuée très sensiblement.
Atténuée.
Ce qui était normal, il fallait qu'il y ait une sanction pour marquer l'enfant, mais elle a été très sensiblement atténuée.
Ah oui, un enfant si jeune, absolument. C'était vraiment très rude. Pense encore à d'autres choses dont j'ai entendu parler. Vous êtes témoin ou victime d'une discrimination à l'embauche, au travail, pour l'accès à un logement ou à un lieu public, à des services, voilà.
Alors effectivement, j'ai eu à intervenir notamment en matière de discrimination à l'égard de personnes handicapées, moi-même ou mes collègues de la région centre. Et je vais vous citer quelques exemples qui me paraissent assez parlants. Ça se passe dans un autre département, c'est l'un des délégués qui sont sous ma coordination, ma qualité d'animateur régional. Ça se passe dans le département du Cher. Une personne non-voyante vient rencontrer le délégué en disant voilà, l'autre jour j'ai voulu me rendre dans une grande surface dans le département et le vigile puis la direction de l'établissement m'ont refusé l'accès à la grande surface au motif que j'avais un chien d'accompagnant. C'est parfaitement illégal, un non-voyant a le droit d'être accompagné même dans une grande surface par un chien d'accompagnant. Mon collègue est intervenu aussitôt auprès du directeur de l'établissement concerné, la situation a été rétabli. Et partant de l'idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mon collègue a fait une réunion d'information avec les autres responsables des grandes surfaces de ce département, de manière à éviter qu'un tel phénomène ne se reproduise. Voilà.
Mmh.
Autre exemple, toujours en matière de discrimination à l'égard de handicapés. J'ai eu à traiter, il y a quelques années, de la situation d'un jeune qui avait été refusé dans les transports publics dans ce département, dans la mesure où il avait un fauteuil handicapé, un fauteuil électrique, qui prenait beaucoup de place, et le chauffeur d'un autocar lui avait refusé l'accès, préférant que plus de personnes valides montent dans le car. Je suis intervenu auprès d'une part de l'autorité municipale qui organisait ces transports en public et auprès du prestataire de service. À la suite de ça, bien sûr, tous les chauffeurs de car ont été rappelés à la bonne règle. Et il a même été fait des simulations pour voir comment devaient être aménagés les bus, les cars, pour permettre d'accueillir certains chariots plus encombrants comme les chariots électriques. Et donc, je crois que ça a été, au plan pédagogique et pour l'avenir, une très bonne démarche qui a été très utile. Voilà. De même, plus prosaïquement, il arrive, vous savez, que la maison départementale qu'on appelait des personnes handicapées, qu'on appelle maintenant la maison départementale de l'autonomie, prescrive que des jeunes enfants soient assistés par un assistant de vie sociale pendant leur année scolaire, puisque ces enfants ont du mal à se mouvoir à l'intérieur des classes, etc., ont des problèmes d'audition ou de vue, etc. Et quelquefois, c'est une prescription de la maison départementale de l'autonomie, mais l'éducation nationale a quelquefois des difficultés pour trouver la personne, l'AVS, qui assistera ces jeunes scolarisés qui font l'objet d'un handicap. Eh bien, à la suite d'une démarche de ma part, ça permet dans la plupart des cas de résoudre cette solution.
Nous allons peut-être nous interrompre maintenant par un court intermède musical avant de reprendre la suite de toutes ces explications bien utiles pour nos auditeurs.
Au grand ciel.
On parle parfois de discrimination à l'embauche. Est-ce que vous êtes saisi pour ce genre de choses? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que vous-même vous traitez de ce genre de cas?
Alors, j'ai eu à connaître de quelques dossiers, généralement qui n'ont pas été jusqu'au bout. Parce que lorsque, si vous voulez, le droit de la discrimination est quelque chose d'extrêmement complexe. Et il faut véritablement étudier les choses d'une manière très détaillée.
Pardon, cette discrimination, c'est surtout des gens d'une autre nationalité?
Pas forcément, ça peut être en fond, là aussi, ça peut être le handicap, ça peut être l'âge, ça peut être l'état de santé, la grossesse, par exemple, la maternité d'une femme. Il arrive que ça existe dans certains nombres d'établissements qu'une femme, lorsqu'elle a eu un enfant, est considérée comme moins disponible par certains employeurs qui changent d'emploi. Mmh. Une femme qui avait des postes de cadre peut se trouver toujours sur un poste de cadre, mais moins en contact, sur quelque chose. On lui demande de faire des fonctions logistiques, de la formation, etc. Et bien dans ces cas-là, nous pouvons intervenir. Quelquefois, il faut faire remonter le dossier au défenseur des droits pour vraiment qu'il mette toute son autorité morale en cause. Il faut savoir d'ailleurs que lorsqu'il y a des discriminations, si c'est une discrimination de ce type, c'est un caractère à la fois civil, administratif, mais également pénal. Et il faut savoir que le défenseur des droits peut présenter des observations devant les juridictions.
Correctionnelles.
Et que ce soit effectivement les conseils de prud'homme, que ce soit les autres juridictions, y compris pénales. Et donc, dans des cas où l'employeur refuse de tenir compte du droit, eh bien, le défenseur des droits fera valoir des observations qui sont quand même suivies dans 70% des cas par les juridictions concernées.
Hein.
Oui. Alors, il m'est arrivé, moi, d'intervenir, mais pour des dossiers qui concernaient, et essentiellement, curieusement, la fonction publique. Je n'ai pas eu véritablement, dans ce département, de dossiers concernant des entreprises privées, mais des gens estimaient que, lors d'une promotion, on avait proposé un collègue qui, selon eux, avait moins d'expérience, un poste auquel ils auraient pu prétendre. Voilà. Alors, c'est toujours très difficile de faire la part des choses, mais j'ai étudié les dossiers en profondeur et ça a été examiné avec le respect de toutes les règles d'usage.
On parle donc de discrimination à l'embauche, au travail, l'accès au logement, à un lieu public.
Alors, discrimination logement, je n'en ai connu qu'une, vous voyez, qu'un dossier de réclamation. Et effectivement.
Une seule
dans le département. Je crois que c'est fréquent en région Île-de-France. Dans le département de Haute-Loire, il y a assez peu de discrimination logement, enfin, qui sont portées à notre connaissance, parce que là aussi, Il se peut qu'en matière de discrimination, les gens n'aiment pas faire part de ce type de sujet, préfèrent conserver ça pour eux. Et on a souvent discuté avec la justice, avec le procureur de la République. Eux-mêmes ont très peu de plaintes pour des discriminations et nous-mêmes, nous avons peu de dossiers. En matière de logement, je vous dis, j'en ai connu qu'une et c'était effectivement... le propriétaire avait demandé à l'agent immobilier chargé de la location d'insérer des clauses qui étaient tout à fait anormales. Il a suffi que j'appelle l'agent immobilier qui a rappelé la bonne règle au propriétaire. Les choses ont été réglées immédiatement.
Et pourtant, dans les logements, il y a le fameux problème, pour les conciliateurs de justice en particulier, le fameux problème du bruit et qui est vraiment un litige entre les gens qui est épouvantable. Les Africains, par exemple, qui sont habitués dans leur pays à parler très fort, continuent à parler très fort dans leur appartement et les Français s'en plaignent. Donc il y a une chose qui est je sais que là... Enfin, c'est un litige qui est très, très fréquent en France.
Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de voisinage, que ce soit dans les zones pavillonnaires, que ce soit dans les immeubles collectifs. Mais là, comme vous faisiez remarquer à juste titre, ça n'est pas de la compétence du défenseur des droits, mais des conciliateurs de justice qui, eux, essaient de rapprocher les voisins, leur point de vue, etc., et de régler le problème à l'amiable. Quelquefois, ça va devant les tribunaux. Mais en tout cas... Ce type de dossier, si vous voulez, si dans un cas particulier venait devant le défenseur des droits, nous ne tiendrons pas compte, bien sûr, de l'origine des locataires ou des voisins concernés, mais simplement de l'effectivité des nuisances. Nous traitons de manière égale toutes les personnes qui se présentent à nous.
J'ai entendu parler également de victimes ou de témoins d'un comportement abusif de la part de personnes qui exercent des activités de sécurité.
Voilà.
Alors ça, c'est quelque chose qui existe.
Alors, effectivement, c'est d'ailleurs ce qui nous préoccupe le moins possible. Ça représente, en gros, à notre niveau des délégués, 1% des dossiers que nous avons à connaître. Je dis bien à connaître parce que non pas à traiter. Ce sont des dossiers délicats. Il peut s'agir de violences policières, par exemple. Alors, s'il s'agit de violences policières, bien sûr, c'est le siège de l'institution. qui traite l'affaire. Bon, à partir du moment où un particulier se plaint de violences policières, il y a une enquête qui est menée par les collaborateurs du siège et qui auditionne les deux parties, par exemple le policier, le gendarme, etc., ou l'agent de sécurité privée, puisque ça s'applique également à eux. Et ensuite, une recommandation est faite par le défenseur des droits. Les délégués du défenseur des droits en tant que tels n'ont qu'un rôle d'information et de transmission au siège de l'institution. Nous n'intervenons pas du tout dans ce domaine. Par contre, pour simplifier les choses, il existe en matière de déontologie de la sécurité des litiges moins graves que les violences que j'évoquais il y a un instant, qui sont délégués dans les régions à certains délégués, mais spécialisés. En région centre, il y en a deux, par exemple, un qui est à Tours et l'autre qui est à Orléans, mais qui interviennent là aussi pour des faits, je dirais, mineurs. Ils interviennent que dans deux domaines. Pour les refus de plainte, il arrive que quelquefois, un usager veuille porter plainte auprès d'un commissariat de police, auprès d'une brigade de gendarmerie, et que sa plainte soit refusée. Alors, dans certains cas, c'est justifié, parce que pour qu'il y ait plainte, il faut qu'il y ait une suspicion de problème d'ordre pénal. Par contre, dans d'autres cas, c'est à tort que les forces de police ou de gendarmerie refusent de prendre la plainte. Et bien dans ces cas-là, nos collègues spécialisés peuvent intervenir auprès des forces de police et de gendarmerie. Autre cas, les propos malveillants. Il arrive qu'un jeune ou un autre, d'ailleurs, se dise « Moi, le policier, le gendarme, a tenu à mon égard des propos malveillants. » Et là aussi, ça peut être délégué à ces représentants du défenseur des droits dans les régions, mais qui sont bien identifiés.
Alors, d'un point de vue très pratique, quels sont à Chartres, ou enfin ailleurs, je ne sais pas, mais enfin à Chartres, les lieux et heures de permanence, si les démarches à effectuer pour rencontrer quelqu'un, voilà.
Alors, si vous voulez, la première indication que je donnerai, pratique, c'est qu'il existe, pour ceux qui sont familiarisés avec Internet, un site Internet du défenseur des droits. Il suffit de taper sur le moteur de recherche « défenseur des droits ». Et là, vous avez absolument toutes les indications, notamment des permanences, des délégués, etc. Et vous avez une mine d'informations pratiques très intéressantes. Ensuite, il faut savoir que dans ce département d'Eure-et-Loire, nous sommes trois délégués. Moi-même, j'exerce mes fonctions à la préfecture. Et j'ai donc une permanence tous les mercredis. Alors, il suffit donc d'aller sur le site internet du défenseur des droits. On a mon numéro de téléphone, on a mon adresse email, on a mes jours de permanence. J'ai un autre collègue qui intervient également sur Chartres. Il s'agit de Monsieur Luc Herrig, qui lui est au point d'accès au droit, rue du docteur Gibert à Chartres, tout près de la place des Épars. Et nous avons enfin une troisième collègue qui, elle, tient ses permanences à la maison de la justice du Drouet, de manière à ce que nous puissions irriguer un peu tout le département et que nous soyons à proximité des usagers, nos concitoyens. Voilà les indications pratiques, mais je crois qu'on peut inviter, dans tous les cas, l'usager à aller sur le site du défenseur des droits. Il aura nos mails, il aura nos numéros de téléphone, il aura nos horaires de permanence, etc.
Et je crois bien savoir que le recours au défenseur des droits est gratuit.
Absolument.
C'est très important.
C'est très important. Nous sommes facilement accessibles. Nous traitons les dossiers avec rapidité, puisqu'en moyenne, on traite nos dossiers dans un délai d'excédent, pas 30 jours, ce qui est pas mal. Et donc, c'est gratuit.
Un grand merci, monsieur, pour tout ce que vous nous avez indiqué aujourd'hui et qui pourra servir, je crois, beaucoup à nos auditeurs.
C'est moi qui vous remercie, madame.